Par pure jalousie, j'avais demandé un interprète, enfin une interprète même. On m'a dit non, c'est plusieurs langues, c'est que le jour de la Pentecôte. Alors effectivement, la semaine dernière, c'était la Pentecôte et on en a parlé. Et donc, cette semaine, c'est si on reste dans les commémorations, enfin, je suis pas, comme vous le savez peut-être, je ne suis pas très favorable à des calendriers liturgiques, mais si on reste dans les commémorations, ça fait exactement, comme la semaine dernière c'était l'anniversaire de la Pentecôte, aujourd'hui c'est l'anniversaire du jour où ça faisait une semaine qu'ils étaient, parce que ça les a quand même plus que surpris, encore sous le coup de l'émotion et de la surprise, d'avoir entendu quelqu'un prendre la parole pour dire, ça aussi c'est quelque chose qui me fait sourire, c'est que la première prédication de l'évangile, pour employer ce vocabulaire, elle commence par « Non, nous ne sommes pas bourrés ». Vous pouvez vérifier, hein, c'est ce qui est écrit. On n'est pas, il n'est que 9h du matin, donc on n'est pas rond comme des queues de pelle. Simplement, ce qui est en train de se passer sous vos yeux, c'est ce qui avait été annoncé par Dieu lui-même, par la bouche de Joël. Et c'est pas rien, c'est que Dieu a dit, je vais mettre mon esprit, enfin, faut quand même prendre la mesure de ça, parce que on connaît ça par cœur, bien sûr, mais il faut en mesurer l'importance. Je vais mettre mon esprit sur tout le monde. Vous imaginez ce que c'était avant cet événement-là, ce que c'était que Dieu qui mettait ponctuellement, temporairement, son esprit sur un homme de temps en temps, choisi, trié sur le volet, sélectionné, à qui Dieu disait « Toi, tu vas être mon porte-parole ». Le type était tétanisé. C'était pas n'importe qui, c'était pas n'importe quand, et c'était un événement planétaire. Et là, on change complètement de mode de communication. Dieu dit, ça, je vais le faire avec tout le monde et tout le temps. Enfin, tout le monde, pas les enfants, si, vos fils et vos filles. Les filles, pas les femmes quand même. Pourquoi pas les domestiques? Et Joël continue, même sur les serviteurs et sur les servantes. Bon, les vieux qui sucrent les fraises, ils sont à... les vieillards, tout le monde. Je vais, a dit Dieu par la bouche de Joël, changer une communication externe en communication interne. Je vais arrêter de vous parler de l'extérieur, je vais vous parler de l'intérieur. Ça change tout. Je ne serai plus une voix que vous entendrez parce que j'aurai choisi quelqu'un de spécial pour porter ma parole. Cette voix-là, vous l'entendrez à l'intérieur de vous. Parce que, avait dit Dieu, je vais venir habiter en vous. Et Jésus l'avait confirmé. Je frappe et si quelqu'un m'ouvre, je m'inviterai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Et j'habiterai. Alors, du coup, le théoricien qu'est Paul, il va poser une équation toute simple. Comment ça s'appelle l'endroit où Dieu habite? Le temple. Et donc Paul va dire, vous êtes des temples. Ça aussi. Alors, effectivement, il y a des tas de choses dans la Bible qu'on lit, j'allais dire, en les prenant pour des banalités. Vous êtes des temples. On a suffisamment parlé du temple pour que chacun ici sache ce que ça représente, ce que c'est. Là encore, le temple, c'est un type choisi, trié, une dynastie, machin, qui une fois par an, et dans des conditions tout à fait particulières, rentre au cœur du temple pour être en communication avec Dieu. Et là, Paul dit, vous allez être ça. Alors, il va développer un enseignement là-dessus sur lequel je vais brièvement revenir. D'abord, alors c'est aux Corinthiens qu'il explique ça. Hein. La première chose qu'il va dire, c'est vous êtes le temple de Dieu, c'est-à-dire Dieu habite en vous. Il a fait son habitation en vous pour pouvoir vous parler de l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, de la même manière que le temple avait une valeur inestimable, vous avez, du coup, pour Dieu, une valeur inestimable, puisque vous êtes son habitation. Et donc, on n'a pas intérêt à vous toucher. Sinon, Dieu se venge. C'est la première chose qu'il va dire aux Corinthiens. Donc, ça, c'est dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et ce temple, c'est vous. » Ça veut dire que, contre une certaine philosophie qui disait « Ce qui compte dans l'être humain, c'est l'esprit, le corps, c'est méprisable. C'est méprisable, le corps, c'est rien. Ce qui compte, c'est l'esprit. » Paul dit le contraire. Il dit « Dieu habite dans votre corps. » Effectivement, ça veut dire le mépris du corps qui était développé, encore une fois, par une certaine philosophie grecque, ça voulait dire si on nous tue, c'est pas grave. Non, Dieu prend ça à cœur. Dieu prend à cœur notre intégrité d'être humain, c'est-à-dire l'esprit et le corps. Et il dit ça, puisque c'est ma maison, et c'est valable pour chacun d'entre nous, puisque c'est ma maison, faut pas y toucher. Enfin, ou plutôt, si on y touche, c'est pas sans conséquence. Ça, c'est la première chose que Paul révèle aux Corinthiens. Et après, il va leur dire, il faut pas que les autres fassent n'importe quoi avec vous, à partir du moment où vous êtes le temple. Mais a fortiori, faut pas que vous fassiez n'importe quoi avec vous-même. Et donc, la deuxième leçon qu'il va donner, c'est un peu plus loin, au chapitre 6, avec un parallèle audacieux, enfin, que moi, je n'aurais personnellement jamais osé, mais que Paul ose. Et il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Bon, prendrais-je les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à une prostituée fait avec elle un seul corps, car il est écrit, les deux ne seront qu'une seule chair, mais celui qui s'unit au Seigneur est avec lui un seul esprit. Avec une prostituée, un seul corps, avec le Seigneur, un seul esprit. Fuyez la débauche. Alors, une précision sur le terme, parce que c'est le terme, vous le savez sans doute aussi, en grec « porneia », dont on a tiré « pornographie », le champ sémantique est beaucoup plus large que ce que vous imaginez, c'est-à-dire, bon, c'est pas les films X, il n'y en avait d'ailleurs pas à l'époque, la « porneia » en grec, c'est la sexualité sans la morale, tout simplement, enfin, si on veut en donner une définition. Donc c'est de ça qu'il est question. « Fuyez la débauche, tout autre péché commis par l'homme est extérieur à son corps, mais... celui qui est débauché pêche contre son propre corps, ou bien ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous vient de Dieu et que vous ne vous appartenez pas? Quelqu'un a payé le prix de votre rachat. Glorifiez donc Dieu par votre corps, et il insiste, le corps. Alors, que les autres ne fassent attention à ce qu'ils font contre vous, et puis vous-même, c'est la deuxième leçon, faites attention à ce que vous en faites de ce corps, parce que ce corps, c'est le temple. Et du coup, ce temple, il est saint. Mais, encore une fois, là, je suis dans les rappels de ce que tout le monde sait bien, mais ça introduit mon propos. Et puis, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, il va aussi en mettre une couche, toujours au chapitre 6, en disant, alors, il a dit que les autres fassent attention à ce qu'ils font avec vous, vous-même faites attention à ce que vous faites avec votre corps, et puis, le temple, c'est le lieu saint. Enfin, il y avait plusieurs parties dans le temple, mais c'est par définition un édifice sacré, et donc pas de mélange. Et ça, c'est sa troisième leçon, dans laquelle il dit « Vous êtes le temple ». Ne formez pas d'attelage, donc, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, « Ne formez pas d'attelage disparate avec les incrédules. Quelle association peut-il y avoir entre la justice et l'impiété ? Quelle union entre la lumière et l'obscurité? Quel accord entre Christ et Bélial? Ça, c'est une divinité qui, on va dire, pour faire simple, symbolisait le néant. Quelle relation entre le croyant et l'incrédule? Et il finit, qu'y a-t-il de commun entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Et donc, pas de mélange, parce que, comme dans l'Ancienne Alliance, ce qui est pollué, on va dire les choses comme ça, pollue ce qui est propre, et pas l'inverse. Il n'y a que Jésus qui fait l'inverse. Quand Jésus touche un lépreux, c'est pas Jésus qui devient lépreux, c'est le lépreux qui se débarrasse de sa lèpre. Nous, on n'est pas Jésus. Et donc, la mise en garde, elle vaut là. Le temple, on n'y faisait pas entrer n'importe quoi. Donc, pas de mélange. Bon. Tout ça est archi classique, Et donc tout le monde ici a lu ces enseignements de Paul sur le chrétien comparé ou assimilé même au temple. On peut aller plus loin. On peut aller plus loin en se disant que dans l'histoire du temple, alors je parle là du temple du vrai, enfin on est aussi des vrais temples, mais du temple de Jérusalem, dans l'histoire du temple de Jérusalem, du coup, comme les textes posent la comparaison, on peut aussi tirer des leçons. On peut aussi tirer des leçons pour nous, parce que ce qui est arrivé au temple, ça nous arrive aussi à nous. Et je veux simplement prendre deux exemples. J'ai promis à celle qui aujourd'hui ne m'accompagne pas d'être bref comme elle l'exige maintenant de moi. Je vais prendre deux exemples simplement de ce qu'on peut tirer comme leçon des aventures ou même des mésaventures du temple. Alors la première leçon, elle nous dit d'abord que Paul, malgré toute l'admiration intellectuelle que j'ai pour lui, là en disant vous êtes des temples, vous êtes le temple de Dieu. Il n'a rien inventé, puisque le premier à dire ça, le premier à faire la comparaison, c'est pas Paul, c'est Jésus lui-même. Donc c'est au début de l'évangile de Jean, mais ça aussi on le sait bien, au début de l'évangile de Jean. Alors, Jean 2, verset 13, « La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, ainsi que les changeurs qui y étaient installés. Alors s'étant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, et les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux marchands de colombes, « Enlevez tout ça d'ici et ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévorera. » Mais les Juifs prirent la parole et dirent « Quel signe nous montreras-tu pour agir de la sorte ?» Et Jésus leur répondit « Détruisez ce temple et en trois jours je le reconstruirai. » Alors les Juifs lui dirent « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple et toi tu le relèveras en trois jours. » Mais lui parlait du temple de son corps. Aussi, lorsque Jésus se releva d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait parlé ainsi, et ils crurent à l'Écriture ainsi qu'à la parole qu'il avait dit. Jésus, c'est le premier à dire le temple, c'est pas seulement cet édifice qu'on a, dont, en l'occurrence, Hérode le Grand, aux environs de moins 20, donc 20, de l'an 20 avant Jésus-Christ, avait ordonné la reconstruction. Parce que ce temple, on passe son temps, enfin, au fil de l'histoire, à le démolir et à le reconstruire. Donc là, Hérode le Grand avait ordonné la reconstruction du temple. Évidemment, Hérode le Grand étant mégalomane, plus beau, plus grand, plus tout qu'avant. Et du coup, le chantier avait pris une cinquantaine d'années quand même. Et là, il venait juste d'être fini, puisque Jésus, dans sa jeunesse, a connu un temple en chantier permanent. Hein. Et pour faire bonne mesure, comme à cette époque-là, le pays était occupé par les Romains, on avait adjoint juste au temple, juste à côté du temple, une caserne avec une tour, comme ça, les Romains pouvaient surveiller ce que faisaient les Juifs. Bien. Et donc, tout ça est à peu près fini, mais juste inauguré, quoi. Et Jésus dit, mettez ce temple par terre, et moi, je le reconstruis en trois jours. Ça fait rigoler tout le monde, sauf que, effectivement, il parle de son corps, parce qu'il parle de son corps comme du temple de Dieu. C'est lui le premier qui fait cette comparaison. Mais moi, ce qui m'intéresse, là, c'est la leçon que je peux tirer de ce qui arrive au vrai temple, puisqu'on est dans l'épisode où, là aussi archi connu, il chasse, comme on dit, les marchands du temple. Faut surtout pas s'imaginer que ces gens-là étaient partis dans un délire de débauche absolue. Enfin, c'est pas ce qu'ils ont installé sur le parvis du temple, puisque c'est sur le parvis que ça se passe. Ce qu'ils ont installé sur le parvis du temple, c'est pas un casino, c'est pas une boîte de nuit. Enfin, c'est pas une boîte de striptease, a fortiori, enfin, c'est rien de tout ça. C'est quoi? C'est deux choses. Deux choses que, j'allais dire, le bon sens commande. On vient de partout, et parfois de loin, à Jérusalem, au temple, puisque le temple, c'est l'épicentre de la relation avec Dieu. Dieu, il n'est que là, dans l'Ancienne Alliance. Il est même dans l'endroit le plus sacré du temple, puisque c'est graduel, c'est-à-dire il y a le parvis, il y a même plusieurs parvis, il y a le parvis des étrangers, c'est-à-dire les étrangers n'ont pas le droit d'aller au-delà, après il y a ce qu'on appelle le parvis des femmes, les femmes n'ont pas le droit d'aller au-delà, après il y a le... etc. Et puis ça finit au cœur du temple, où là, je vous le disais, il n'y en a qu'un, le chef des sacrificateurs, qui rentre une fois par an, avec un cérémonial de l'autre monde, pour être en relation directe avec Dieu. Mais bon, là, on est sur le parvis où tout le monde a accès. Et il se passe quoi sur le parvis où tout le monde a accès ? Bah, puisque on vient au temple pour faire une offrande, parce que qu'est-ce qui se passe concrètement dans ce temple ? On vient faire des offrandes et on vient faire des sacrifices. Donc pour les offrandes, il y a ce qu'on appelle le trésor, il y a un endroit, une cagnotte comme ça, mais en 1000 fois plus gros. Bon, c'est le trésor du temple, et le trésor du temple, il a une particularité, c'est qu'il a sa propre monnaie. C'est pratique ça. Donc, on ne peut mettre dans le trésor du temple que la monnaie du temple. Sauf que, quand vous êtes juif d'Antioche, ou de Rome, ou de d'où vous voudrez, ou d'Alexandrie, et que vous venez au temple de Jérusalem pour la fête, bon déjà, faut se taper la route, hein. Mais surtout, la monnaie du temple, c'est pas votre monnaie. Et puis quand vous êtes à Alexandrie, la monnaie du temple de Jérusalem, vous n'en trouvez pas dans les bureaux de change. Résultat des courses, chacun arrive avec son propre pognon, enfin, il suffit d'aller au pied de la tour Eiffel pour comprendre ça facilement. Il y en a qui ont des dollars, il y en a qui ont des yens, il y en a qui ont... voilà. Et puis, quand vous avez affaire à quelqu'un qui n'accepte que des euros, il faut bien trouver un bureau de change. Donc le bureau de change, il est juste là pour ça. Il est juste là parce que le type qui arrive avec des drachmes ou des sesterces ou des je sais pas quoi, il faut changer pour la monnaie du temple pour pouvoir mettre son truc dans le tronc. Il y a rien de mal à ça. Enfin, si c'était pas Jésus, moi j'aurais envie de lui dire, mais t'en fais pas un peu des tonnes là. Ils font pas de mal ces gens-là. Et puis c'est pareil. Vous venez d'Alexandrie. On vous dit le sacrifice, c'est un bouc ou c'est un taureau. Vas-y, faire le voyage avec le bouc, toi. Résultat des courses, c'est beaucoup plus simple de l'acheter sur place. Quand même plus simple de se balader avec du pognon qu'avec un troupeau de bestiaux qui prennent pas le bateau, qui vont crever pendant le voyage parce qu'il fait une chaleur de plomb. Ça aussi, c'est tout simple, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Quel mal! Donc, effectivement, faut aller sacrifier des animaux. Autant qu'ils soient vendus sur place, les animaux. On va pas venir avec. On les achète. Sur le parvis. Mais où est le mal ? Et lui, il s'énerve, là. Il casse tout. Alors, d'abord, ce qui me plaît dans ce texte, c'est que ça casse, alors là, pour le coup, en dehors des tables, ça casse l'image d'un Jésus plus ou moins hippie, construite dans la mythologie cinématographique depuis 68. À chaque fois qu'on voit Jésus au cinéma, moi, ce qui m'éclate, c'est qu'il pèse 50 kilos tout mouillé, il a deux de tension. Hein. C'est pas ça, Jésus. Jésus, c'est quelqu'un qui, quand il se met à renverser une table, on se met pas en travers. Hein. On se met pas en travers parce que là, de toute évidence, il est en colère et ça impressionne tout le monde. Hein. Personne se met en travers de son chemin pour lui dire « Bon, t'arrêtes ça, sinon je t'en mets une. » Non, c'est pas quelqu'un qui... c'est pas un gringalet. Hein. Et c'est quelqu'un qui est capable de se mettre en colère, déjà. C'est pas le moine bouddhiste... vous voyez ? Donc ça casse un peu l'image qu'on peut avoir de Jésus au cinéma, c'est que Jésus est capable de colère. Alors, quitte à ce qu'il soit capable de colère, et c'est vrai qu'il se met pas souvent, on le voit pas souvent en colère, Jésus. Non mais, ça veut dire déjà que quand il se laisse faire, par exemple au moment de son arrestation et tout ça, quand il se laisse faire, c'est vraiment que volontairement il se laisse faire. C'est pas, on n'entend pas les dents qui claquent, hein, c'est pas ça. Jésus, quand on l'arrête, il n'est pas pétrifié de terreur, non, il choisit, d'ailleurs il dit « Personne ne me prend ma vie, c'est moi qui la donne ». Et donc, tout ça pour ça, ces gens-là ne font pas de mal. Pourquoi s'en prendre, pourquoi se mettre en colère, surtout une colère comme ça, tout casser, tout renverser, tout, c'est quoi ce truc, quoi ? L'explication, elle est simple. Parce que on n'a pas profané le temple, hein. On n'a pas fait rentrer des animaux dans... l'épicentre du temple en disant bon on s'en fout on fait comme si Dieu n'était pas là non toutes les parties sacrées du temple restent sacrées il y a rien de tout ça simplement la question et ça c'est une leçon que je prends pour moi et que je modestement nous invite à méditer c'est quelle image on donne vis-à-vis de l'extérieur la question elle est là ce qui met en colère Jésus c'est que le parvis du temple, du coup, même si les intentions sont bonnes, il ressemble à n'importe quelle place de marché, de Jérusalem ou d'ailleurs. C'est-à-dire avec des gens qui vendent et qui achètent, et des bureaux de change. Une esplanade où il y a des bureaux de change et des gens qui vendent et qui achètent des animaux, il y en a plein le bassin méditerranéen à cette époque-là. C'est d'une banalité affligeante. Alors, que derrière ça, il y ait le temple de Dieu, avec la présence de Dieu dans le lieu ultra-saint, peut-être, peut-être. Mais le problème, c'est que ça se voit pas. Et c'est pour ça qu'il dit, il est écrit, c'est une maison de prière. Et vis-à-vis de l'extérieur, une maison de prière, et il ajoute, et c'est pas innocent, pour tous les peuples. Ça veut dire que vis-à-vis de l'extérieur, ça doit ressembler à une maison de prière. Et pas un marché aux bestiaux. Donc, là, j'interpelle clairement une personne ce matin, et vous vous en doutez, cette personne c'est moi. C'est, effectivement, tu es conscient d'avoir Dieu, d'être le temple de Dieu, parce que la présence de Dieu à l'intérieur de toi, tu la ressens. Donc, tu sais que c'est vrai. Tu sais que la promesse de Dieu, elle est accomplie pour toi. Tu sais que Dieu habite en toi par son esprit. D'accord, il n'y a pas de doute là-dessus. La question n'est pas là. Ce qui met Jésus en colère, c'est pas est-ce que tu as reçu l'esprit de Dieu ou pas. Bien sûr que Dieu tient ses promesses. La question, c'est quelle image tu donnes à l'extérieur. À quoi tu ressembles vis-à-vis du monde. Tu ressembles à quelqu'un en qui Dieu habite ou tu ressembles à tous les autres, c'est-à-dire des gens qui achètent et qui vendent. Je me parle à moi, là, je vous parle pas à vous. Hein. Sinon, ce serait pas sur ce ton. Mais moi, j'entends Dieu me dire ça ce matin. À quoi tu ressembles vis-à-vis de l'extérieur. Encore une fois, l'intérieur, d'accord. L'intérieur, bon, ok, c'est ma maison. Mais la façade, le parvis, l'esplanade, ça donne quelle image pour ceux de l'extérieur, pour ceux qui te voient, pour ceux qui te regardent, et pour ceux qui sont censés voir en toi la maison où j'habite. C'est quoi? C'est quelque chose qui ressemble à tout le reste, à tous les autres. Un type qui achète, qui vend, qui fait sa vie dans une ressemblance aux autres absolue, et tu peux toujours me dire « Oui, mais derrière ça, il y a ma maison. » On s'en fout, ça. Enfin, c'est pas le propos. C'est pas ça qui va me mettre en colère ou pas en colère. Je sais que mon père tient ses promesses. Je sais qu'il habite au fond de toi. Là, pour l'instant, on parle de la façade. Quelle image tu donnes? Quelle image je donne? Et la deuxième leçon que je prends, encore une fois, ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas une mentalité d'imprécateur. Donc, tout ce que je dis de manière un peu véhémente ou un peu énergique, c'est surtout pour moi, parce que c'est surtout les leçons que je prends. La deuxième leçon, mais on pourrait, si vous prenez l'histoire du temple depuis l'origine, des leçons comme ça, on peut en trouver et on peut en prendre évidemment beaucoup plus. Mais on est dans un format nécessairement réduit. La deuxième leçon, je la trouve dans le livre de Néhémie, au chapitre 13. Décidément, ce temple, je vous le disais, il n'arrête pas d'être démoli et reconstruit. Donc, bien des siècles avant l'épisode dont je viens de parler, enfin bien des siècles, 5 siècles du coup, puisque vers 500, pour replacer les choses dans leur contexte, Nabucodonosor, le Babylonien, conquiert la terre d'Israël aux environs de l'an 587 exactement, enfin en 587 avant Jésus-Christ, destruction de Jérusalem, et du coup destruction du temple, et ce qu'on appelle la déportation, c'est-à-dire tout le peuple, ou en tout cas ce qu'il en reste, est emmené à Babylone, et quelques années plus, enfin une cinquantaine d'années plus tard en gros, un demi-siècle plus tard, Cyrus, donc le Perse, enfin, qui est devenu roi des Mèdes et des Perses, et donc qui a, dans le delta du Tigre et de l'Euphrate, a réussi à renverser l'équilibre des pouvoirs avec Nabucodonosor, le Babylonien, donc prend le pouvoir, entre autres, à Babylone, et lui, il est dans une optique complètement différente, donc il dit, lui, ça l'intéresse pas d'avoir des esclaves étrangers comme ça, enfin des gens, des déportés, aujourd'hui on dirait des migrants, parce que c'est quasiment un camp de migrants, hein, la vie en déportation à Babylone. Et donc il dit non seulement il dit rentrez chez vous, mais comme il veut instaurer une paix qui lui soit favorable, il dit non seulement vous rentrez chez vous, mais je vous paye de quoi reconstruire la ville. Et de quoi, évidemment, reconstruire le temple et remettre tout ça en ordre. Et il le fait. Il le fait, et il fait superviser ça, parce que, effectivement, il faut quand même surveiller où va le pognon. Il fait superviser ça, entre autres, par un type qui s'appelle Néhémie, Donc Néhémie vient de Babylone à Jérusalem pour superviser la reconstruction du temple et la de la ville et la remise en route, parce que le temple c'est pas seulement un édifice, c'est aussi une infrastructure, une institution. Donc on remet tout ça en route. Et donc une fois qu'il a fait son boulot, Néhémie repart à Babylone, très bien. Comme c'est un type moderne dans la conception qu'il a du service après-vente, 12 ans après, parce qu'il remet tout en route, et quand vous mettez quelque chose en route, bien sûr qu'il faut surveiller. Il faut revenir après pour voir si ça marche, et si ça marche correctement. Et donc, 12 ans après avoir remis tout ça en marche, Néhémie revient. Alors, Néhémie, il fait un couple avec Esdras, le prêtre, hein, qui va aller, bon, mais peu importe. Et donc, Néhémie revient 12 ans après, et il fait une tournée d'inspection en disant, bon, ce que j'ai remis en place il y a une douzaine d'années, comment ça marche? Et ça donne ceci. Donc, Néhémie 13, verset 4. Auparavant, le prêtre Eliashiv avait été chargé des chambres de la maison de notre Dieu. Il était proche parent de Tovia, et il avait préparé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile, ce qui était ordonné pour les lévites, les chantres et les portiers, de même que le prélèvement pour les prêtres. Pendant tout ce temps, je n'étais pas, alors là il raconte sa vie, pendant tout ce temps je n'étais pas à Jérusalem, car dans la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone, j'étais revenu auprès du roi, mais après quelque temps, je demandais congé au roi, et je retournai à Jérusalem, je me rendis compte du mal qu'avait fait Eliashiv à cause de Tobia, en lui préparant une chambre dans les parvis de la maison de Dieu. J'en fus très irrité, et je fis donc jeter hors de la chambre tous les objets de la maison de Tobia, puis je dis de purifier les chambres, et j'y fis rapporter les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. Je fus informé aussi que les parts des Lévites n'avaient pas été données, et que les Lévites et les chantres qui faisaient le service s'étaient enfuis, chacun dans sa campagne. Je fis des reproches aux magistrats, et je dis, pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Puis je les rassemblai et je les rétablis à leur poste. Alors tout Juda apporta la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile pour mettre dans les réserves. Je donnai l'ordre de placer ces réserves sous la garde du prêtre Shelemia, du scribe Sadoc et de Pédaïa, l'un des Lévites, avec à côté d'eux Hanan, fils de Zakour, fils de Matania, car ils étaient considérés comme des hommes fidèles. C'est à eux qu'il revenait de faire la répartition à leurs frères. Souviens-toi de moi, mon Dieu, à cause de ça, et n'efface pas la fidélité avec laquelle j'ai agi pour la maison de mon Dieu et pour son service. On pourrait dire l'histoire se répète, parce que là aussi il y a de la violence. Ça apparaît moins que dans l'épisode de Jésus, mais quand Néhémie décide, l'expression dans l'original est forte. C'est je fais mettre tout ça dehors. C'est-à-dire il a fait balancer toutes les affaires du type qui s'était installé dans le temple. C'est le cas de le dire, manu militari. Et donc l'histoire se répète. Là encore, on a affaire à un temple flambant neuf. Et là encore, la même réflexion vient à l'esprit. Pourquoi s'énerver? Pourquoi s'énerver? Où est le mal? Comme pour les marchands du temple tout à l'heure. Il se passe quoi? Il se passe qu'il y a un prêtre, bon, dans le temple. Le temple, c'est pas une coquette studette, comme on dit dans le sketch. C'est-à-dire, c'est des milliers de mètres carrés. Bon. Et il se trouve que le prêtre a quelqu'un de sa famille qui est à la rue, en tout cas qui a pas de quoi se loger, et il lui dit, bah tiens, dans le temple, il y a tellement de pièces que tu en occupes une, ça va pas bouleverser le cours de l'histoire, donc... Voilà, je t'autorise à t'installer dans une des chambres, dans une des pièces du temple, et puis voilà, tu t'installes, et comme ça, au moins, t'as un toit sur la tête. C'est plutôt sympa, hein, c'est plutôt généreux, ça part d'un bon sentiment. Moi, je trouve que loger quelqu'un qui n'a pas de logement, prendre en charge un SDF, ça mérite pas qu'on s'énerve. Au contraire, c'est plutôt sympa. Et l'autre, là, il fait un souk... Et il met tout dehors, il jette tout. Le problème, Eliashiv, il est au service du temple. Et la confusion, j'allais dire impardonnable, tout est pardonnable, mais la confusion d'Eliashiv, c'est de prendre l'endroit au service duquel il a été embauché pour son bien propre. Le temple, c'est pas à lui. Moi, si je croise un SDF, c'est mon droit le plus absolu de lui dire « viens t'installer chez moi ». Mais si au lieu de ça, j'ai la générosité de lui dire « viens t'installer chez Manu, tu vas voir, je suis sûr qu'il y a une chambre vide, tu peux t'installer. Et ne me remercie pas, c'est tout naturel ». Ben, Manu, il va me dire quoi ? Il va me dire « hey, t'es mignon, mais c'est pas ta baraque, c'est la mienne ». Et là, la réaction de Néhémie, mais qui est la réaction de Dieu, c'est de dire « ben, c'est sympa de faire le bien avec les maisons des autres ». Le temple, c'est ma maison, c'est pas la tienne. Donc tu prêtes une pièce pour qu'il s'installe dans ma maison. Mais tu te prends pour qui ? Ben, tu te prends pour moi. Lequel de nous deux est le propriétaire ? C'est toi ou c'est moi ? Faut savoir. Ou bien t'es au service du temple, et à ce moment-là, ben, t'es un serviteur, et il vient pas à l'idée d'un serviteur, au sens d'un domestique, d'installer des gens dans la maison de ses maîtres. Ou bien tu te prends pour ce que tu n'es pas, c'est-à-dire pour un propriétaire, et là, c'est la fête, allons-y, venez, installez-vous, faites comme chez vous. Ben oui, faites comme. C'est tellement facile de dire « faites comme chez vous » quand on n'est pas chez soi. Alors, est-ce que je suis ou pas le temple de Dieu ? Paul, tout à l'heure, on l'a lu, il finit son explication par dire « vous ne vous appartenez plus, vous ne vous appartenez plus, vous êtes à Dieu ». Et donc, est-ce que moi je suis le temple de Dieu, mon corps est le temple de Dieu, au sens où je dois le comprendre, c'est-à-dire, ben, Seigneur, voilà, t'es chez toi, tu fais ce que tu veux avec ce corps, il t'appartient, il ne m'appartient plus. Ou bien alors, est-ce que de moi-même, parce que quand même, je suis plus intelligent que Dieu, hein, faut pas. Donc de moi-même, je sais ce qu'il y a de bien à faire autour de moi. Donc, je vais pas attendre qu'ils me le disent, je vais prendre l'initiative. Moi, j'ai mes idées sur la question. Je sais comment rendre service. Je fais pas de mal, hein, je fais du bien. Hein. D'ailleurs, en l'occurrence, je loge un type qui a pas de logement. Cool. La question, c'est qui est le propriétaire ? Une fois pour toutes, qui est le propriétaire ? Si c'est Dieu le propriétaire, à ce moment-là, tu fais pas ce que tu veux. Et si c'est toi qui es le propriétaire, à ce moment-là, tu fais pas semblant de dire « je suis le temple de Dieu ». Là aussi, je m'interpelle. J'ai tellement de bonnes idées, mais qui sont pas les idées de Dieu. Ah oui, mais c'est des bonnes idées quand même. Oui, mais là, on voit la suite. On voit la suite. C'est que quand c'est pas l'idée de Dieu, quand le temple, il ne sert pas à ce que Dieu a prévu, ben, il se passe quoi ? Oh, c'est rien. J'ai juste prêté une chambre. J'ai juste prêté une pièce pour qu'il se loge. Bon, alors, le texte nous dit, c'est la pièce où on mettait les offrandes. Ben donc, il n'y a plus d'endroit pour mettre les offrandes. Les dîmes, les machins, enfin le blé, enfin ce qui nous. Ah, alors c'est compliqué, on va les mettre où ? Ben, on va pas les mettre du coup. Ben, alors c'est plus la peine d'aller demander des dîmes et des offrandes puisque on n'a plus de place pour les mettre puisqu'il y a l'autre qui occupe là, qui squatte. Bon. Ah ben oui, mais alors du coup s'il y a plus les dîmes et les offrandes, c'est sympa, mais c'est ce qui nourrit les lévites quand même, les prêtres. Donc les prêtres, ben moi vous me payez pas, je bosse pas. Hein. Refrain connu. Donc, ils restent chez eux. Enfin, c'est pas. Je ne fais que redire ce que je viens de lire. Ils restent chez eux. Et plus de prêtres. Mais les prêtres, ça fait quoi ? Ben, ça fait le service du temple. Ça fait le culte. Le culte rendu à Dieu. Et donc, du coup, il se passe plus rien. Alors, on a un magnifique bâtiment, flambant neuf. Ça fait 12 ans qu'il est fini, pas plus. Donc, on est presque encore dans la garantie décennale. Et puis il sert plus à rien. Il sert plus à rien parce qu'il y a un type qui a prêté une pièce qui justement servait à mettre les choses qui servaient à payer les lévites. Les lévites plus payés, ils disent moi, basta, et tout le monde reste chez soi. Et plus de culte. Ça, c'est mes bonnes idées quand elles ont la prétention de prendre la place des bonnes idées de Dieu. À l'arrivée, il se passe plus rien d'efficace. Le culte que je dois. Je n'existe que pour ça. Si Dieu me laisse vivant à la seconde où je vous parle, c'est pour le servir. Si ça, ça ne se fait plus, je sers à quoi en tant que corps, temple de Dieu ? À rien. Donc, qui me crame tout de suite ? Heureusement, il me fait grâce. Parce que sinon, vous auriez en face de vous un petit tas de cendres. Mais il faut être cohérent. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire très simplement que j'ai mes idées sur la manière dont Dieu doit être servi. Si je suis son temple, C'est pas ça qui doit compter. Justement, il a mis en moi son esprit pour que j'entende, je l'entende dire de l'intérieur ce qu'il attend de moi. Donc c'est pas à moi de remplacer ses idées par les miennes. Et puis ça veut dire que si j'écoute mes pensées intelligentes, ben, pour pas que le message soit brouillé, je suis obligé de le faire taire. Donc j'écoute plus ce que lui me dit. Alors là, on est dans le petite cause, grands effets. Oui, mais je n'ai pris qu'une pièce dans le temple. J'ai pas dit je squatte tout le bazar. J'ai dit ouais, mais vous savez ce qu'on raconte aux enfants quand on leur parle du diable. Le diable, c'est pas quelqu'un qui vous met dehors de chez vous. C'est quelqu'un qui vous dit je te demande juste de me prêter un clou. Puis on réfléchit, puis on se dit bon, un clou. Je vais lui prêter un clou. Ça n'engage à rien. Et puis, une fois qu'on lui a prêté le clou, il coche sur le clou un putois mort. Eh ben, vous restez pas chez vous, vous êtes viré. Voilà, l'affaire est faite. C'est comme ça que ça se passe. Le piège dans lequel on tombe, c'est jamais un piège de 4 mètres sur 3, sinon on n'y tomberait pas. C'est toujours insidieux. C'est toujours, eh ben, on commence par une petite pièce en se disant, allez, Seigneur, tout le reste de ma vie, c'est à toi. Mais garde un petit jardin secret. Ouais, sauf que au moment où Dieu décide, parce que c'est pas forcément tout le temps et c'est pas forcément de la manière la plus spectaculaire qui soit, on n'est pas tous des Paul, on n'est pas tous des Pierre, on n'est pas certes, mais le jour où il a besoin de moi pour faire quelque chose, ben, je ne peux plus. Et là, j'allais dire, le diable a gagné s'il a réussi à me neutraliser en amont. Je ne peux plus, pas parce que ce qui doit à ce moment-là être mis au service de Dieu, ça n'est plus disponible dans ma vie. Alors j'ai aussi à tirer cette leçon-là du fait d'être un temple. C'est que ça peut pas être, mon corps ne peut pas être le temple de Dieu à 90 ou 95 ou même 99,9%. Je suis complètement à lui. Alors là, ne prenez pas la peine de me dire bah ça ne se voit pas. Je sais bien que ça ne se voit pas. Je sais bien que c'est pas le cas. Je sais bien que j'ai besoin de toute la grâce et de toute la patience de Dieu pour progresser, déjà ça serait pas mal, dans cette direction-là. Mais c'est ce à quoi il m'appelle et ce à quoi je dois tendre. Parce que un jour, et j'en aurai terminé par là, un jour je ferai le même constat épaté que Jean à Patmos quand il reçoit la révélation. Révélation, donc, en grec, apocalypsis, l'apocalypse. Il voit la ville qui descend. Cette ville magnifique. Il regarde partout, c'est bouleversant, merveilleux. Puis tout d'un coup, il se fait une réflexion. Il dit, tiens, il n'y a pas de temple. Il n'y a pas de temple. C'est dans Apocalypse 23. Et justement, parce que c'est une révélation, quand il va écrire ça, il va dire, et je vois qu'il n'y avait pas de temple. Parce que le temple, c'est le Seigneur. C'est Apocalypse 23, non, ça doit être 21, pardon. Chacune des portes, bon, donc il décrit la ville, mais de temple, je n'en vis pas dans la cité, car son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. On a, tout à l'heure, Manu a parlé du nom de Dieu, puisque je suis dans Apocalypse 21, on va y rester, et ça sera la conclusion de la conclusion. Manu nous parlait du nom de Dieu, donc ce fameux, on suppose que ça se prononce Yahweh, enfin, le tétragramme, comme on dit, qui veut effectivement, enfin qui est compliqué à traduire et qui proclame l'essence au-delà de l'existence. Dieu n'a pas besoin d'exister pour être, contrairement à nous. Bon, on va se lancer par redémarrer une prédication là-dessus parce que ça m'emmènerait trop loin. Et effectivement, c'est très compliqué. Ce mot-là est intraduisible dans n'importe quelle langue, notamment en grec. Et donc, il y a aussi dans ce tétragramme la notion de permanence. Donc, quand on le traduit en grec, le plus simple qu'on ait trouvé dans le Nouveau Testament, c'est de mettre le verbe être au passé, au présent, au futur. Donc, quand on traduit en grec le nom de Dieu, on dit il était, il est, il sera. Bon. Et on met les trois verbes, enfin le verbe aux trois temps à coller. C'est la moins mauvaise traduction que les auteurs du Nouveau Testament ont trouvée. Mais ce que je veux vous dire, puisqu'on est au chapitre 21 de l'Apocalypse, c'est que l'immense cadeau que Dieu nous fait, à nous qui sommes ses temples, et c'est une belle conclusion, pas la ramener, mais c'est que il a un nom qu'il a donné à Moïse, et il en a un deuxième qu'il donne pour la fin des temps. Et parce que ça aussi, c'est un seul mot en grec. Voici la demeure de Dieu. Donc on parle du temple. Hein. Voici la. Alors enfin, on parle du temple. On parle de la ville. La ville qui descend, et on dit « Voici la demeure de Dieu avec les hommes, il demeurera avec eux, ils seront ses peuples, et lui sera, et ça c'est un nom propre, Dieu avec eux. » C'est-à-dire que, alors que à Moïse, au début des temps, il a proclamé son essence, c'est-à-dire « Il n'a pas besoin de nous pour être, son essence ne dépend pas de son existence, on existe par rapport aux autres. » Lui, il existe, il est, c'est plus qu'exister, il est sans avoir besoin d'exister, même s'il existe, puisqu'il existe pour nous. Mais il y a une partie de lui qu'on ne peut pas connaître, à laquelle on n'a pas accès, c'est son essence, pour l'instant. Et le cadeau inouï qu'il nous annonce, c'est que son identité, ça sera aussi, dans le monde qui vient, Dieu avec eux. Dieu avec eux, c'est-à-dire Dieu en relation, Dieu existant. Et il inscrit ça dans son identité. Donc, ma vie, aujourd'hui, elle ne sert qu'à ça, mettre dans mon identité, puisque le principe d'une relation, c'est que ça se fait à deux, dans mon identité, c'est-à-dire mon nom, ce qui me définit, ce qui est mon essence au-delà de mon existence, bah c'est Yann avec Dieu, en un seul mot. Alors, j'en suis loin, mais... je prie pour qu'il m'aide à être ce temple dans lequel non seulement il a plaisir à habiter, mais qui est regardé comme tel par les gens qui m'entourent.